Nous sommes très heureux, chers auditeurs et internautes, de vous tenir encore compagnie. Cette fois-ci, nous parlons d'une nouvelle publication qui reste d'actualité. Nikèze Kibelbel-Oka, ce journaliste d'investigation, revient encore à la charge avec une nouvelle publication intitulée « Les rébellions rwandaises au Kivu » entre parenthèses 1996-2024. L'ouvrage qui est préfacé par notre prestigieux historien, le professeur Isidore Ndayoel Ndiem, est postfacé par le professeur Cyril Moussila. L'ouvrage est paru aux éditions Scribe et Nikèze Kibelbel est notre invité. Nous sommes venus à sa rencontre. Nikèze Kibelbel-Oka, bonjour.
Bonjour, chers confrères.
Pourquoi s'intéresser donc aux rébellions rwandaises au Kivu? Je sais que vous avez dénoncé dans vos différentes publications les EDF et même par rapport à l'exploitation de l'or des Kilomoto. Mais cette fois-ci, cette publication braque les projecteurs sur les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 jusqu'en 2024. C'est quoi la motivation, Nikèze?
La motivation, c'est comprendre, faire comprendre aux lecteurs, aux décideurs et à presque au monde entier le drame que traverse la République démocratique du Congo depuis 1996. Il y a eu une série de rébellions, AFDL, RCD et Mieté. Nous avons le CNDP, le M23, le M23 rénové. Alors, il faut expliquer aux Congolais que ce sont des rébellions rwandaises, ce ne sont pas des rébellions congolaises. Parce que la définition d'une rébellion, c'est que c'est les populations se révoltent contre un pouvoir et qui les change. On dira, mais oui, ce sont les populations. Mais regardez ces rébellions. C'est comme on fait tomber l'ouragan, pas s'il fait tomber des roseaux. Et après l'ouragan, les roseaux se redressent parce qu'on ne déracine pas les roseaux, on ne déracine pas les arbres. Si c'était des rébellions congolaises, elle ne reviendrait pas tous les 3 ans ou les 5 ans, ainsi de suite. C'est pourquoi il faut expliquer à la population que ce sont des rébellions rwandaises, mais au Kivu.
Alors, Nikèze, justement, vous définissez les M23 comme la réincarnation du CNDP. Comment vous justifiez cela?
Oui, parce que, d'abord, vous voyez, ceux qui ont animé le CNDP, ce sont les mêmes qui se retrouvent dans les M23. Mais le CNDP avait présenter un cahier. Contrairement à l'AFDL et au RCD, le CNDP avait présenté un cahier et ces cahiers discutés ou l'accord signé le 23 mars a donné naissance au M23. C'est vraiment la réincarnation du CNDP avec les mêmes doléances qu'ils appellent doléances légitimes, c'est-à-dire que leur laisser l'Est de la République pour qu'ils gèrent pendant 5 ans renouvelables une seule fois. Donc c'est une réincarnation. Vous avez les mêmes personnes qui ont été dans le CNDP, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui dans le M23. C'est une réincarnation.
Alors, Nikèze Kibelbel, dans la table des matières, on retrouve plusieurs sujets. Dans le premier chapitre, vous parlez de la mise en place d'une déstabilisation totale de la région. Et parmi les points, vous évoquez l'assassinat du capitaine Désiré Ntumba Goma. Vous parlez l'occasion tant rêvée par Kigali et Kampala. Vous parlez des centres de brassage non contrôlés par Kinshasa. Vous parlez de Bosco Ntaganda chez Laurent Kunda, vous parlez de la naissance du Congrès national pour la défense du peuple, donc le CNDP, vous parlez de Laurent Kunda, la pièce rare de Kigali, et vous parlez aussi de Laurent Kunda encore un peu plus fort avec l'FDLR, vous parlez également des tableaux du déploiement des commandants du CNDP et leur secteur. Vous donnez aussi beaucoup d'infos sur Bosco Ntaganda, vous parlez de Mwanga Chuchu pour Ntaganda contre Laurent Kunda.
On peut d'abord s'arrêter là.
Oui.
Et je retiens, on présente le tableau, oui, du déploiement des commandants du CNDP. Ah. Vous allez regarder, vous allez comprendre que ces gens se sont déployés, page 49-50, oui, se sont déployés dans tous les coins du Nord Kivu, Masisi, Rutshuru, jusqu'à Kanyabayonga. C'est-à-dire que ceux qui combattent...
C'est une histoire qui était préparée.
Préparée, bien préparée. Et les commandants sont aguerris, donc connaissent le milieu. Ils ne sont jamais partis du milieu. Ils étaient des commandants des secteurs. Ils le sont jusqu'aujourd'hui. Et ça leur permet effectivement de faire la guerre et d'avancer. Nous parlons de, parce que vous l'avez cité, le conflit entre Mwanga Chuchu et la Coopérama. Vous savez, le député Mwanga Chuchu est aujourd'hui condamné par la cour militaire. Nous montrons comment, à partir de la SMB, et grâce à la corruption, des policiers, des soldats rwandais sont entrés au Congo avec la complicité de la police nationale congolaise du Nord Kivu, ils ont été envoyés à Robaya, ils ont porté la tenue de la police nationale congolaise et ce sont eux qui ont pratiquement agrandi ou qui ont donné de la force au M23. Donc la naissance du M23, la résurrection du M23 était très bien préparée grâce aussi à notre bêtise parce que presque chaque mois, une cinquantaine de Rwandais étaient affectés comme gardiens à la mine de Robaya avec l'uniforme de la police nationale congolaise. Et ils disparaissaient après quelques temps dans la nature. Ce sont eux qui ont effectivement donné corps au M23. Donc nous en parlons et nous abordons beaucoup de choses. Au fait, comme nous le disons, Laurent Kunda était une pièce rare. Mmh. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, on les garde au Rwanda. Parce que Laurent Kunda, on peut tout dire, c'est un stratège. Et Kagame qui a compris que Kunda était stratège, avec l'évolution politique, il l'a mis de côté, il a utilisé son, si je peux dire, son disciple Makenga, qui continue la guerre jusqu'à aujourd'hui.
Voilà. Makenga Sultani.
Sultani Makenga, Ruganziza, c'est ça son vrai nom. Donc, il continue la guerre, sans trop de bruit. Et lorsque vous regardez, si vous cherchez les commandants dans les RCD, et dans l'M23, vous trouvez que ce sont les mêmes qui se retrouvent sûrement dans les tableaux de déploiement que nous avons sortis. C'est-à-dire, on n'a rien inventé, on a seulement continué cette déstabilisation mise en place depuis pratiquement 1996.
Mikes Kibelbel vous parle également du partenariat explosif entre le CMB et le Coopérama. En quoi est-ce que cela est explosif?
Oui, parce que la SMB, ça se passe à Rubaya. La SMB exploite la mine de coltan du Colombo Tantaline. Mais les exploitants, c'est la coopérative Coopérama. Coopérama qui est à majorité Hutu, creuse et vend à Mwangatucho qui est aussi. Et destination finale, tout le monde le sait, ou destination transitaire, c'est le Rwanda. Mais le président Kagame essaie aussi d'affronter, de confronter les deux communautés à travers SMB et Coopérama. Régulièrement, il y a des affrontements entre les Hutu, donc les exploitants artisanaux, et la SMB. Et c'est comme ça, comme nous le disons, vous avez cette police-là des recrues rwandaises qui deviennent la PNC congolaise et qui finalement vont dans les M23. Vous avez aussi ce qu'on a appelé les 3P, policiers poissons pourris. C'est-à-dire que la police nationale, les autorités de la police nationale congolaise mettent de côté certains policiers qui le trouvent têtu et ils les remplacent par des Rwandais. Donc voilà un peu ce que nous décrivons.
Nikes Kibelbel Oka, vous parlez également dans cet ouvrage qui contient 270 pages, donc 270 pages. Vous parlez aussi de la chute de Bunagana. Qu'est-ce qu'on retient sur ces chapitres?
Alors, la chute de Bunagana qui coïncide aussi aujourd'hui, même mode opératoire, avec la chute de Kanyabayonga. Au fait, c'est ce qu'on appelle, en termes de militaires, l'opération de déception. Lorsque le Rwanda lance l'attaque sur Tchanzu, les FRDC qui étaient en minorité ont placé tous les chars et autres sur Tchanzu et Runyonyi. Mais grâce à l'opération de déception, le Rwanda a contourné les FRDC pour aller vers l'Ouganda. À partir du groupement de Busanza, ils ont attaqué Bunagana. Au fait, Bunagana est tombé avec l'appui de l'Ouganda. Les FRDC se sont retrouvés pris en tenaille.
Il y a des opérations conjointes entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise.
Nous y arrivons. Alors, quand vous prenez la chute des Nyanza, les Rwindi, c'est le même plan. C'est-à-dire, l'Ouganda appuie le M23 sur l'axe Rutshuru-Rwindi-Mabenga. Le Rwanda envoie une brigade sur l'axe Nyanzale pour arriver à la Rwindi. Et ce sont ces gens-là, ces militaires-là, qui ont combattu les FRDC dans les escarpements de Kanyabayonga. Comme les FRDC, toujours la même erreur, avaient braqué, s'étaient concentrés sur l'axe central, les Rwandais ont fait les débordements. C'est l'opération de déception. Ils ont fait les débordements, c'est-à-dire ils ont laissé les FRDC dans leur position, ils ont contourné, ils ont pris Miriki, maintenant les FRDC se sont retrouvés pris en étau. D'où le repli stratégique. Donc, les mêmes erreurs dues à un effectif réduit, dues à un équipement qui ne répond pas à l'équipement de l'ennemi, parce que l'ennemi a eu tout le temps de s'acheter des équipements, armement lourd, nous étions sous embargo, même si on ne veut pas les reconnaître. Donc, l'ennemi s'est retrouvé ou se retrouve avec un équipement assez. Et puis, l'ennemi est fort dans la guérilla, dans la guerre, c'est parce que le régime du Rwanda.
La guerre asymétrique.
La guerre asymétrique, effectivement, merci pour les dépannages. Le régime du Rwanda, comme celui de l'Ouganda, ont été créés sur base d'une guérilla. Ils ont maintenant mis ensemble et les tactiques de guérilla et les tactiques des armées conventionnelles, ce qui leur permet d'avancer assez bonnement.
Alors, qu'est-ce qui va être belle au cas dans la deuxième partie de l'ouvrage, vous développez aussi d'autres sujets, vous parlez des préparatifs du retour du M23 en République démocratique du Congo, vous braquez également vos projecteurs sur l'AFDL, l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération, la RDC. Mais partant de votre expérience de journaliste et d'investigation, est-ce qu'on arrivera un jour à mettre fin à ces cycles de violence?
On y arrivera, il faut espérer, parce que l'espoir fait vivre.
Quelles sont les pistes?
Alors, les pistes, c'est d'abord une grande diplomatie, parce que ce que nous vivons, c'est une diplomatie qui a été mise en place par les Américains en soutenant le président Kagame et Museveni. Donc, c'est eux qui ont pratiquement formé ces gens-là. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous donne un exemple en passant. Regardez nos voisins. Le Congo-Brazzaville, il y a le pétrole. Qui exploite le pétrole? C'est Total Énergie. L'Angola, Total Énergie. Total Énergie, donc la France, via Total Énergie, finance l'armée rwandaise pour combattre au Mozambique, pour protéger les blocs gaziers de Total Énergie. La France équipe et finance l'armée ougandaise, forme ce qu'on appelle la brigade des montagnes, qui vient faire la mutualisation avec nous pour protéger le pétrole du lac Albert. Et nous, qui nous finance, qui forme nos militaires. Donc, tous nos voisins, enfin pas tous, presque 4 ou 5 voisins, sont financés, leur armée entretenue et équipée par l'armée française via Total Énergie. Alors, nous nous retrouvons sans diplomatie, diplomatie agissante.
Il n'y a pas moyen de contourner ces situations.
Alors, il faut effectivement des stratégies pour contourner ces situations. Par exemple, le pétrole des lacs Albert, c'est un pétrole commun, vous savez, c'est le même lac qui nous sépare avec l'Ouganda. Qu'est-ce qui fait que l'Ouganda s'en approprie sans nous? Bien sûr, il faut que les politiques répondent à cette question. Par exemple, bon, nous avons la SADC. Nous sommes membres de la SADC. Qu'est-ce qui fait que l'armée rwandaise combat au Mozambique dans un pays de la SADC et nous combat sur le terrain en RD Congo? Mais il faut que la diplomatie prenne en compte tous ces petits détails-là qui sont des détails très importants mais nuisibles à notre souveraineté. Et à ce moment-là, on peut inverser les rapports de force.
Alors, vous parlez également des FIB, qui est une des forces de la mission onusienne. Quelle différence établissez-vous entre la FIB de 2013 et celle d'aujourd'hui?
C'est très important et le Congolais doit le savoir, le Congolais. Pourquoi? Lorsque, en 2012, le M23 prend Goma, la SADC met en place ce qu'on a appelé force internationale neutre. Mais cette force internationale neutre ne peut pas opérer sans l'accord des Nations Unies. Les Nations Unies, finalement, font de cette force une brigade au sein de la MONUSCO. Mais la brigade, la FIB, vient avec du matériel, hélicoptères, armes lourdes, tout ainsi de suite, et se prépare pour combattre les M23. Elle combat les M23, elle les défait. Mais par après, cette brigade engluée dans les Nations Unies, la MONUSCO, fait retourner ses hélicoptères et autres, doit combattre les groupes armés, une brigade qui n'était pas préparée pour les groupes armés. Donc, la brigade perd de son efficacité. Cette brigade se retrouve en 2024 dans de mauvaises conditions et elle ne peut pas gagner, à moins qu'on réforme la brigade avec des éléments spéciaux. Ça, c'est de un. Cette brigade aussi ne peut pas évoluer parce que au sein des Nations Unies, il y a des contradictions des pays contributeurs. Vous avez les États-Unis qui a une autre logique sur la RDC, appuyée par la Grande-Bretagne. Vous avez la France qui joue à l'équilibriste. Donc, quand vous regardez le Conseil de sécurité, vous vous rendez compte que la brigade ne peut pas bien opérer, mais il faut ajouter un autre élément. Dans le partage de renseignements au sein des Nations Unies, le Rwanda occupe une place très importante dans le partage de renseignements. Ce qui fait que le Rwanda a une mainmise sur tout ce qui se passe au Congo de façon, pas officielle, mais de façon officieuse. Donc, ce qui affaiblit totalement la brigade et la brigade devient inopérante. À l'époque, en 2013, on ne parlait pas des zones tampons. Le général Bawuma, avec le général Bayo, qui commandait la MONUSCO, avait décidé effectivement de frapper les M23. Ils les ont frappés en les chassant des Tchans. Mais aujourd'hui, vous avez entendu, l'EAC est venu avec ses systèmes de zones tampons à partir de Rumangabo. Donc tout ça, ce sont des plans de déstabilisation de la RDC ou de balkanisation. Alors, il faut concevoir une nouvelle brigade avec des missions spéciales. avec des forces, des éléments spéciaux qui puissent répondre comme celle de 2013 à ces problèmes qui préoccupent la RDC aujourd'hui.
Alors, où est-ce qu'on peut acheter cet ouvrage, Nikes Kibel-Belok, Les rébellions rwandaises au Kivu? Ouvrage de 270 pages, donc 270 pages paru aux éditions Scribe. Ouvrage publié sous la plume de Nikes Kibel-Belok, journaliste d'investigation, directeur du journal Les Coulisses et du site internet www.lescoulisses.info et directeur également du centre d'études et recherches géopolitiques de l'Est du Congo. Vous enseignez les modules contre insurrection et terrorisme, donc de l'école des guerres de Kinshasa et à l'école de commandement de l'état-major. Voilà, donc promotion à Kinshasa et auteur de plusieurs articles. Vous avez même été aussi primé par rapport à votre travail de journaliste d'investigation. Comment faire pour acheter ou lire ces livres, Nikes?
D'abord, il faudrait dire un mot. Ce livre a été préfacé par une icône de notre et même de l'Afrique, le professeur Isidore Ndaiwel. Ça, c'est une chance. C'est-à-dire que quelqu'un comme le professeur Ndaiwel ne peut pas s'hasarder à préfacer n'importe quoi. D'ailleurs, il le dit, ce livre, c'est du dedans qu'il faut le lire. C'est la guerre du Congo du dedans, présentée par un journaliste d'investigation. Parce qu'il y a ceux qui écrivent sur la guerre du Congo du dehors. Mais ça, c'est du dedans. Alors, ça, c'est de un. Et de deux, ce livre a été aussi coaché par le général Bayou, qui a lu et relu sur les aspects militaires. Donc, ce livre est tout militaire. Du premier, de première classe jusqu'au général, il doit les lire. Sinon, il ne comprend rien de ce qui se passe.
Où est-ce qu'il peut le trouver?
Il peut le trouver en nous appelant au 09-98-190-250. 09-98-190-250. Vous voyez, le livre vient de sortir au moment où Kanyabayonga tombe. Et vous retrouvez tous les repères qui font que Kanyabayonga devait tomber. Donc, c'est vraiment de l'actualité au top. Et il faut les lire.
Nikes Kibel-Belok, merci d'avoir répondu à nos questions et on souhaite bon vent à l'auteur de cet ouvrage que je recommande à tous nos auditeurs et internautes.
C'est un plaisir pour parler avec vous et les auditeurs de Radio Okapi. Je vous remercie.
Merci.